Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, je vous invite à rendre un culte à Dieu notre Père. La période de l'Avent est un temps d'attente, un temps de pause pendant lequel nous méditons sur les œuvres de Dieu. Nous voulons compter et marquer chaque jour avant Noël. Nous voulons le faire en développant et en cultivant notre sensibilité au plan de rédemption de Dieu pour nous les êtres humains. Nous voulons aussi, durant cette période, prendre exemple des personnages bibliques qui ont attendu. Siméon a attendu la consolation d'Israël. Anne a attendu la rédemption de Jérusalem. Dieu a répondu à leurs espérances et ils ont vu le Messie nouveau-né. L'Église est reconnaissante à Dieu de la naissance du Christ et elle anticipe sa seconde venue à la fin des temps. Animés par cette même espérance et joie, venez et célébrons notre roi en chantant « Venez le célébrer », Arc 237.
Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donnez la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur.
Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, Père éternel et plein d'amour, nous te sommes reconnaissants pour le Christ, notre Seigneur. Il s'est humilié et est devenu un homme. Il a accompli le plan que tu avais préparé depuis la fondation du monde. Ce plan nous ouvre la voie du salut. Maintenant, nous attendons ce jour avec espérance lorsque le Seigneur Jésus viendra dans toute sa gloire. Dieu notre Père, nos cœurs désirent rencontrer ton amour. Ils cherchent la lumière de ta parole. Augmente en nous la soif de toi, notre Sauveur. Donne-nous la force de grandir dans l'amour et que nous nous réjouissions en toi. Que ton Esprit Saint nous guide ce jour par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Le psaume choisi pour ce jour est le psaume 85. Nous lisons. Au chef des chantres, des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Éternel, fais-nous voir ta bonté. Et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Fin de citation. Ce psaume parle de la restauration, du rétablissement d'Israël. Il exprime des mots d'encouragement et d'assurance dans une situation de crise. Ce sont des paroles d'espoir et d'appel à la fidélité au Dieu qui apporte le salut. Les derniers versets de ce psaume décrivent merveilleusement le salut de Dieu. C'est Dieu lui-même qui accorde le bonheur que nous attendons par la première et la seconde venue du Christ. Alors, je vous invite à chanter la bienveillance de Dieu, ta bienveillance exo.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher. Que son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main
La volonté de Dieu et les paroles de grâce de ce dimanche sont tirés de la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, versets 12 à 14. Nous lisons « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se dissoudra et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Fin de citation. Si tout passe, alors la seule chose importante dans la vie est de faire la volonté de Dieu, qui est l'expression de notre justification par la foi. Oui, nous sommes faibles et nous avons besoin de Dieu. Je vous invite à la prière. Ô Christ promis, nous vivons dans un monde conflictuel. Notre paix dépend de ta venue. Nous sommes des êtres pécheurs. Notre pardon dépend de ta venue. Nous sommes pleins de bonnes intentions, mais faibles à les réaliser. Notre seul espoir pour faire la volonté de Dieu est que tu viennes nous aider. Seigneur Jésus, parole faite chair, notre monde attend ta paix, ton pardon et ta grâce. Alors viens, Seigneur Jésus. Amen.
Et maintenant, nous allons laisser la place au message adressé aux enfants. Et c'est David qui a le privilège de pouvoir transmettre ce message aux enfants.
Bonjour les enfants. Connaissez-vous l'histoire des juges dans la Bible ? Les juges étaient des personnes importantes en Israël qui ont vécu après que Moïse et Josué soient morts. Vous voyez, Dieu avait appelé Moïse pour qu'il libère son peuple de l'esclavage et l'amène dans un nouveau pays. Un pays que Dieu allait lui offrir pour lui permettre de vivre libre et heureux en sa compagnie. Et Moïse amena le peuple d'Israël à la frontière de ce pays, alors que lui-même mourut juste avant d'y entrer, à l'âge de 120 ans. À la mort de Moïse, Josué devint chef à sa place, et c'est lui qui conduisit le peuple d'Israël dans son nouveau pays, et qui l'aida à en prendre possession avec l'aide de Dieu. Le peuple était fidèle à Dieu et observait sa parole, ses commandements. Mais voilà que les années passèrent et que toutes les personnes qui avaient vu les grands miracles que Dieu avait accomplis dans le désert du temps de Moïse et dans le nouveau pays du temps de Josué étaient mortes. C'était à présent leurs enfants qui vivaient, et même les enfants de leurs enfants. Mais voilà, leurs enfants n'avaient pas vu, eux, tout ce que Dieu avait accompli. Ils n'avaient pas vu tous ces miracles. Leurs parents leur en avaient parlé, bien sûr, mais ce n'était pas pareil que de le vivre et de le voir soi-même. Leurs enfants n'arrivaient pas à croire sans voir. Du coup, le peuple ne parvint pas à garder foi en Dieu, et il l'oublia en se mettant à servir d'autres dieux que le Seigneur. Oui, le peuple avait abandonné son Sauveur et son Libérateur. Et à cause de cela, des malheurs se sont abattus sur lui. De nombreux ennemis sont venus attaquer le pays, et le peuple, sans l'aide de Dieu, ne pouvait rien faire. Alors, il était malheureux. Mais Dieu aimait son peuple, quand bien même son peuple ne l'aimait plus. Si Dieu avait sorti son peuple d'Égypte, c'était pour vivre quelque chose de fort avec lui. C'était pour être proche des hommes. Alors, Dieu suscita des héros, des personnes capables de ramener le peuple à Dieu et en même temps de vaincre les ennemis qui s'attaquaient à lui. Ces héros s'appelaient les juges, et je vais vous parler de l'un d'entre eux ce matin. Il s'agit en fait du sixième juge, et il porte le nom de Gédéon. L'histoire commence ainsi. Alors que Gédéon battait du blé en cachette pour ne pas se le faire voler par ses ennemis, les Madianites, l'ange du Seigneur vint à sa rencontre. Et il lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Va avec cette force que tu as et tu sauveras ton pays de la main de tes ennemis. » Gédéon n'en croyait pas ses oreilles. Lui, un vaillant guerrier ? Alors que sa famille n'était pas très puissante et que lui-même était le plus jeune des fils de son père. Mais voilà, l'Esprit de Dieu fut sur lui, alors que les ennemis d'Israël, les Madianites, s'étaient regroupés. Gédéon sonna de la trompe et rameuta près de lui tous ceux qui étaient prêts à se battre. 32 000 hommes répondirent à son appel. Gédéon et sa troupe partirent alors à la rencontre des Madianites, qui étaient très très nombreux, comme une multitude de criquets, dit le texte. Ils étaient 120 000 hommes. Mais alors que Gédéon s'apprêtait à combattre, le Seigneur l'appela. Et il lui dit, « Gédéon, non. » « Ne pars pas avec tous ces soldats. Vous êtes trop nombreux. Si tu partais avec autant de monde, le peuple dirait que c'est par ta force et non par la mienne que tu as obtenu la victoire. C'est pourquoi tu diras à ta troupe que ceux qui ont peur rentrent chez eux. » Gédéon transmit le message du Seigneur et 22 000 hommes quittèrent la troupe. Mais ce n'était pas suffisant pour Dieu. 10 000 hommes, c'était encore de trop. Dieu connaissait son peuple et il voulait être certain que la victoire qu'il allait lui donner soit reconnue comme venant de lui. Il voulait que son peuple s'attache de nouveau à lui et comprenne qu'il l'aime. Alors, il demanda à Gédéon de conduire ses soldats vers la source d'eau qui passait par là. Et il lui dit, « Tu demanderas à tes soldats d'y boire. Ceux qui se mettront à quatre pattes et qui se serviront de leurs mains et de leur langue pour boire, tu les mettras à part. » Et c'est ce que fit Gédéon. Résultat, sur les 32 000 hommes qui composaient sa troupe de départ, il n'en resta plus que 300. Et Dieu dit, « Très bien, c'est avec eux que tu iras combattre. » Gédéon attendit la nuit avec ses hommes, et avant de les lancer à l'attaque, il alla observer le camp des Madianites. Et là, il surprit une discussion entre deux soldats. L'un d'eux racontait son rêve. Il avait rêvé que leur camp avait été mis en pièces. Celui à qui il avait raconté son rêve comprit immédiatement que son rêve révélait que Gédéon allait les vaincre. Il n'en fallait pas plus à Gédéon pour prendre courage. Gédéon alla appeler ses hommes et leur dit « Levez-vous, le Seigneur vous a livré le camp de Madian. » Gédéon demanda à chaque homme de prendre une cruche avec une torche à l'intérieur et une trompe, et de le suivre. Les 300 hommes entourèrent le camp de Madian. Tout à coup, Gédéon brisa sa cruche, prit la torche dans sa main et joua de sa trompe. Et les 300 hommes firent pareil, et tous crièrent « Pour le Seigneur et pour Gédéon !» Les Madianites eurent tellement peur qu'ils commencèrent à prendre la fuite, à crier et même à s'entretuer, alors que les 300 hommes ne bougèrent pas de leur place. Gédéon finit par les poursuivre et il remporta la bataille. Et pendant 40 ans, le pays fut tranquille. Alors voilà l'histoire que je voulais partager avec vous, les enfants. Elle vous a plu ? Si vous voulez en savoir plus sur Gédéon, je vous invite à lire dans votre Bible les chapitres 6 à 8 du livre des Juges. À présent, faisons le point sur ce que cette histoire a à nous apprendre. Cette histoire nous apprend notamment que Dieu nous aime et que lorsqu'il est avec nous, rien n'est impossible. Si Dieu est capable d'assurer une victoire à tout un peuple avec une armée de seulement 300 hommes, alors il sera capable de nous aider à surmonter tous les obstacles que nous rencontrerons dans notre vie. Nos ennuis à l'école, les difficultés liées au confinement, l'apprentissage de certaines matières, les disputes à la maison ou avec les amis, etc. Mais pour que Dieu agisse puissamment dans notre vie, il faut que nous lui soyons fidèles et que nous croyions en lui. Et cela n'est pas toujours facile, car finalement, à nous aussi, il est demandé de croire sans voir. Alors, il faut que nous tenions bon, sans nous détourner de Dieu. Prions les uns pour les autres, afin que Dieu nous rende forts et qu'il nous permette de persévérer. Amen. Avant la prière, une annonce, la même que la semaine passée. N'oubliez pas de regarder les petites vidéos qui vous sont envoyées pendant le temps de l'Avent, en prévision de la fête de Noël. Et à présent, place à Gaël qui va prier pour nous.
Alors les enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier ?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment si spécial que tu permets que nous passions en ces temps difficiles. C'est vrai, nous ne pouvons nous toucher, nous sentir, mais nous pouvons nous voir au travers des écrans grâce à cette merveilleuse idée que David a eue. Nous te remercions parce que au travers de cela, nous avons la possibilité de continuer nos enseignements de l'ADE. Merci Seigneur parce que ce matin, nous sommes tous en santé. Merci Seigneur pour la joie de vivre que tu mets dans le cœur de chacun de nous ce matin. Oui Papa, nous venons d'écouter l'histoire de Gédéon. À l'exemple de Gédéon, nous voulons être obéissants et pouvoir compter sur toi, même dans nos moments les plus difficiles. À l'école, à la maison, sur le chemin, partout où nous allons. Nous savons que tu es avec nous, que tu nous aimes et qu'avec toi, rien n'est impossible. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir toujours compter sur toi face aux combats, aux difficultés de la vie, parce que, comme Gédéon, nous savons que la victoire est assurée quand tu es avec nous. Merci encore pour ce moment. dispose notre cœur à pouvoir bien écouter les enseignements qui nous seront transmis ce matin au travers des moniteurs et permet que nous puissions continuer, peu importe les circonstances de la vie, à pouvoir nous retrouver de quelque façon que ce soit autour de ta parole pour la méditer. Merci encore, Seigneur, de ce que nous pouvons rire, de ce que nous pouvons voir nos frères, nos copains que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Bénis ce moment précieux et accorde-nous, Seigneur, de pouvoir demeurer toujours dans ta grâce. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Prions avant la lecture et la prédication de la parole de Dieu. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'Esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de replacer toute chose dans un contexte plus large, sans esprit de système, sans désir de puissance. Cela, nous ne pouvons le recevoir que de toi, par ton esprit et au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Frères et sœurs, je vous invite à lire Ésaïe 40, versets 1 à 8. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit : Crie ! Et il répond : Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle au-dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La deuxième lecture se fait dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, versets 1 à 8. Nous lisons. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jésus parut, bâtissant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le peuple de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant : Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à chanter le cantique « Comme un phare », GM 391.
Et sœurs en Christ, c'est aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes en route vers Noël, qui sera sans doute célébré diversement sous fond d'incertitude et de crainte pour beaucoup de nos concitoyens. La pandémie du Covid-19 oblige. Oui, ce virus a réussi à arrêter au niveau mondial notre course d'une vie effrénée. À cause de lui, plus rien n'est comme auparavant. La vie chrétienne est appelée aussi à se vivre autrement. Nous, chrétiens et Église de Jésus-Christ, vivons dans ce contexte-là. Nous n'avons pas à avoir seulement une vision sociologique ou sanitaire de la chose, mais nous devons aussi avoir un regard de foi, car c'est dans ce contexte que nous sommes appelés à dire Dieu et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le désarroi, la crainte, le désespoir, l'incertitude sont perceptibles chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens. Dans ce qui ressemble à une traversée du désert, nous avons un grand besoin d'encouragement et de consolation. Mais alors la question à nous poser, c'est d'où nous viendra le secours? Mais le psalmiste nous dit, le secours nous vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. En ce deuxième dimanche de l'Avent, les deux textes du jour parlent du désert au sens propre comme au sens figuré. Dans le texte de l'Évangile selon Marc, Jean le Baptiste est allé tout seul dans le désert, où il mène une vie austère et d'où il appelle ses contemporains à une vie renouvelée. Tandis que dans le texte du prophète Ésaïe, il est question du désert au sens figuré parce que le peuple de Dieu connaît une période de grande épreuve, une traversée du désert. En fait, il est en exil. Mais en même temps, Ces deux textes sont pleins d'espérance et de consolation. Ils sont pleins d'espérance et de consolation en ce qu'ils sont porteurs d'une bonne nouvelle et qu'ils nous indiquent le chemin qui mène au bonheur en dépit des circonstances. Je vous propose donc ce matin de suivre le plan que nous donnent ces deux textes, à savoir, dans un premier temps, considérer le cas d'Israël selon le prophète Ésaïe. Oui, le peuple d'Israël, qui dans son désert et surtout dans la consolation qui lui est promise. Dans un deuxième temps, le cas du peuple de la Nouvelle Alliance avec Jean-Baptiste et quelle voie de sortie du désert il nous indique. Prenons donc le premier cas, le cas d'Israël. Israël est le peuple élu par Dieu, mais c'est un tout petit peuple entouré des grandes puissances. Israël a pourtant une expérience très forte de la présence de Dieu en son sein. Il est fier d'avoir pour ancêtres des hommes qui ont marché avec Dieu, tels Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David, etc. Au moment où écrit le prophète, Israël est dans une mauvaise passe. Il est en exil. Son passé glorieux semble bien loin derrière lui. En effet, son histoire récente lui rappelle l'oppression par plus fort que lui. Israël, devant la Syrie et Babylone, dans la suite des temps, Israël, devant Rob, a connu cette désespérance. Et à part quelques résistances matées vigoureusement, il y a souvent succombé. Il y a toujours ou des hommes ou des femmes qui n'ont cessé de guetter. Avec leur mémoire nourrie par les promesses faites par le Seigneur à leur père, le cœur assuré de la fidélité de leur Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de l'Alliance, le Dieu du salut, ils n'ont cessé de croire et d'espérer. Parmi eux, quelques prophètes nous ont laissé des traces de cette foi plus forte que tous les désarrois de l'histoire. Les événements, même les plus ordinaires, les rois et leurs décrets sont scrutés patiemment, attentivement, inlassablement, avec l'espoir d'y découvrir un signe ou un message de leur Dieu, une raison d'espérer envers et contre tout. Le ciel, pour Israël, s'était obscurci davantage. C'est dans un moment pareil que retentit la parole de Dieu adressée à son peuple par la bouche du prophète. En effet, Dieu dit au prophète, « Adresse-toi à mon peuple, réconfortez, consolez, rassurez, rendez courage, exhortez. » Dieu silencieux pendant un temps dit que même si la faute a abondé, dans sa grâce, il considère que le châtiment désormais suffit amplement. Il va déployer pour son peuple des trésors de miséricorde. Il n'est pas d'épreuve qu'ils ne connaissent une fin. Oui, aucun verdict n'est définitif et la grâce peut remplacer la condamnation. Souvenez-vous, frères et sœurs, je parlais tout à l'heure de la traversée du désert par le peuple de Dieu, affirmant que le désert n'a jamais été une destination, mais un passage. Une fois que le but est atteint, il y a toujours une voie de sortie du désert pour entrer enfin dans le pays promis. Même l'exil, qui est une autre forme de désert, il est lui aussi limité dans le temps. Oui, mais à condition que Israël se repente et se convertisse. Le prophète, après avoir entendu ce message de consolation du peuple de Dieu, il dit néanmoins à ce peuple, « Frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. » Ça, c'est la responsabilité du peuple. Ésaïe crie cela au-dessus du tumulte des événements, mais il annonce que, au lieu de se présenter comme un monarque tout-puissant, le Dieu d'Israël se comporte comme un berger qui veille sur son troupeau, qui le rattrape et le conduit lui-même, alors même que ses brebis l'ont oublié et se sentent abandonnées. Ésaïe est chargé de consoler, de réconforter le peuple. Mais pas de fausse consolation, pas de faux réconfort à la manière de la méthode Coué. Il le fait sur la base du Seigneur berger de son peuple qui indique le chemin de la repentance comme voie d'une véritable consolation. Je reprends cette parole du prophète Ésaïe, « Frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. » Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. En d'autres termes, il y a une fin à toute épreuve. C'est un message de consolation. Alors, frères et sœurs, quelle que soit votre épreuve, Dieu promet qu'il y aura une fin à l'épreuve. Rien ne peut entamer la mémoire de Dieu. Et c'est justement parce qu'il se souvient de sa parole éternelle que celle-ci renaît neuve à chaque génération. Abordons maintenant notre deuxième point, le nouveau peuple de Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance. Quant au nouveau peuple de la Nouvelle Alliance, plusieurs siècles plus tard, c'est le même message que Jean-Baptiste, à l'aube de la Nouvelle Alliance, va reprendre face aux hommes de son temps qui sont désorientés, face aux rebelles, désespérés et aux croyants compromis, face à ceux qui sont bardés de certitudes et ceux qui n'attendent plus rien. Il annonce à son tour la bonne nouvelle. Laquelle ? Le Seigneur vient. Jean-Baptiste est dans le désert où il a appris à écouter Dieu. Il est le dernier prophète de la première alliance. Il appelle chacun à opérer en lui ce formidable retournement qu'il appelle conversion ou repentance. Ce qui veut dire à la fois changement de cap et changement d'état d'esprit. Il ne demande pas une amélioration extérieure de quelques habitudes, mais une véritable métanoïa, c'est-à-dire un changement radical, profond, une conversion qui induit une nouvelle compréhension, une nouvelle intelligence. L'expression comporte des éléments de retour sur soi, de retour vers Dieu qui ouvre sur une nouvelle compréhension de Dieu, des autres et de soi. Jean est conscient que l'eau du baptême n'enlève pas le péché. Son baptême n'est qu'une préparation au vrai baptême qui lui sera administré par un autre plus grand que lui. Oui, la repentance et le changement de mentalité est une étape vers la plénitude. Réconfort basé sur le retour à Dieu dans la repentance et le changement de mentalité. L'apôtre Pierre dira d'ailleurs « Efforcez-vous et croissez dans la grâce ». Oui, l'apôtre Pierre résume le débouché pratique de son message en rappelant de quoi il faut se garder. Il faut se garder des attaques frontales, des railleurs et des faux docteurs, et positivement, en invitant à vivre pleinement la vie chrétienne, c'est-à-dire par une volonté de croissance, d'épanouissement, de progrès dans la foi. Cette exhortation laisse une vision très positive de la vie chrétienne, non pas craintive, repliée sur elle-même, mais ouverte, dynamique, avec de belles possibilités déjà en ce monde. Alors, quelle actualité pour nous aujourd'hui, frères et sœurs en Christ? Que retenir maintenant dans notre situation d'incertitude? Depuis qu'il y a des hommes, la parole de Dieu n'a cessé de venir vers eux, mais trop souvent, ils n'ont pas su ou pas voulu la reconnaître et l'accueillir. Ignorant sa parole, ils ont ignoré le Dieu vivant et se sont fabriqués des dieux complaisants et inertes auxquels ils sont restés enchaînés. Or, la fidélité avec laquelle Dieu n'a cessé de redire sa parole tout au long des siècles atteste qu'il n'a jamais renoncé et ne s'est jamais résigné à perdre ceux qu'il aime jusqu'à la folie. Alors, Dieu a choisi de prendre la route qui conduit à l'humanité, celle qu'ont décrite les prophètes. Il est venu lui-même, et depuis ce jour-là, il vient et il frappe à la porte de chacun de nous, croyant ou incroyant, révolté ou résigné, affamé ou repu. Quand il frappe à la porte de l'incroyant, il aimerait bien être accueilli. Et quand il frappe à la porte du croyant, il aimerait opérer encore des changements en profondeur. Il est venu et il ne cesse d'apporter à chacun ce qu'il ignore, ce qu'il délaisse ou qu'il attend de toutes ses espérances. Sommes-nous prêts à l'accueillir dans nos vies? Frères et sœurs, vous, Église de Jésus-Christ, déjà essoufflée, dont la foi est assoupie, toi, frères et sœurs, ne lutte plus, toi qui te laisses aller à la fatalité, au défaitisme, à la désespérance. Toi dont les temps sont difficiles, toi qui traverses le désert, le Seigneur me charge ce matin de t'encourager. Réveille-toi, relève-toi, prends courage, le Seigneur est vivant, il vient vers toi. Renonce tout simplement à ta suffisance, à l'avidité d'autonomie. Apprends humblement à vivre en dépendant de Dieu, de sa parole, de son Esprit Saint. Exprime ta dépendance par une vie de prière. Renonce à la frénésie de vivre en te passant de Dieu. Crie ta misère, ta faim, ta soif du Dieu vivant. Demande-lui la plénitude de vie, la plénitude de l'Esprit. N'aie pas peur de l'Esprit Saint, il est ton paraclet. Convertis-toi, change de mentalité, nourris ta mémoire des promesses faites par le Seigneur, le Dieu de la création, le Dieu de l'Alliance. Recentre ta vie sur le Père, sur Jésus-Christ, sur l'Esprit Saint, sur Dieu tout simplement. Ne cherche pas d'abord le bonheur, la santé, la réussite, l'argent, mais cherche d'abord Dieu, et alors toutes ces choses te seront données par-dessus. Recentre donc ta vie sur Dieu. Dieu irradiera alors ta vie. Et comme les prophètes d'autrefois, tu auras une foi plus forte que tous les désastres, et à travers eux, tu discerneras la trace de Dieu, même à travers les événements les plus ordinaires. Tu auras une raison d'espérer envers et contre tout. Église de Jésus-Christ, convertis-toi, recherche ton Dieu, recentre-toi sur lui, et tu vivras. Ô Dieu qui es vivant, sois-nous en aide. Ô Dieu vivant, que ta bonté se manifeste dans nos vies, que ta bonne nouvelle nous atteigne au plus profond de nous-mêmes. Fais-nous vivre, Seigneur, et nous vivrons par toi et pour toi. Amen.
invite à la prière. Dieu notre Père, souviens-toi de ton Église. Envoie ton esprit d'unité, de courage et de sainteté. Tu nous as purifiés de tout péché par ton sang versé. Rends-nous prêts à t'accueillir le jour de ta venue. Donne la joie à tes serviteurs et à tes servantes, afin qu'ils te restent fidèles toute leur vie. Nourris-nous de ton amour, afin que nos cœurs ne se ferment contre notre prochain. Fais disparaître les divisions entre nous, afin que nous vivions une communion visible. Aie pitié de ceux qui sont persécutés à cause de ton nom et fortifie-les. Console tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps et donne-leur ta paix et la bonne santé. Nous prions pour ceux qui dirigent les nations, donne-leur le sens de la justice afin qu'ils travaillent pour la paix et le bien-être de tous. Nous prions ainsi au nom de celui dont la venue est certaine, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne pour toujours. Amen. C'est le moment des annonces. Juste rappeler que les nouvelles de la communauté se trouvent dans notre magazine mensuel Echo. Les réunions de la semaine se feront par visioconférence, c'est-à-dire Alpha Couple ce dimanche à 14h, réunion de consistoire ce lundi 7 à 19h30 et l'étude biblique de ce jeudi 10 à 19h30. Nous rappelons également que les offrandes et les dons peuvent se faire par virement bancaire. J'invite le pasteur pour l'exhortation et l'envoi et nous chanterons « Ô viens Jésus, arc 307 ».
Recevons la bénédiction de la part de Dieu, mais auparavant, écoutons cette exhortation. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui, soyez enracinés en lui, construisez toute votre vie sur lui, soyez toujours plus fermes dans la foi conformément à ce que l'on vous a enseigné et soyez pleins de reconnaissance. C'est une exhortation tirée de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 6 à 7. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez et portez cette bonne nouvelle à tous. Amen.